France Culture.
Le journal est présenté par Julie Paco.
Bonjour à tous. C'est un second traumatisme pour les habitants de Minneapolis. Après la mort d'un infirmier de 37 ans hier, tué par des agents fédéraux de la police de l'immigration, moins de trois semaines après la mort de René Good. Le maire de la ville demande à Donald Trump de mettre fin aux opérations de l'ICE, accusé par le gouverneur de semer le chaos et la violence et dont les agents sont très peu formés, nous le verrons. Ensemble contre le harcèlement scolaire, banderole tenue par la famille et les amis de Camélia, adolescente de 17 ans qui s'est donné la mort à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Une marche blanche y est tenue ce matin. Et puis des rallonges à gauche, des coupes à droite. Nous reviendrons en détail sur l'ultime copie budgétaire qui ambitionne de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2026. Le directeur de l'OFCE, Xavier Timbaud, est l'invité de ce journal. Alex Préti, 37 ans, infirmier en réanimation, a donc été tué par la police de l'immigration à Minneapolis, aux États-Unis, hier. Là où René Good, mère de famille du même âge, a également été tué à bout portant par un agent de l'ICE au volant de sa voiture il y a moins de trois semaines. Alex Préti a reçu 10 coups de feu tirés par un agent de la Border Patrol, l'autre agence fédérale de l'immigration et dont les troupes sont déployées dans le Minnesota. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Julie.
Alors l'administration Trump a aussitôt qualifié Alex Préti de terroriste de l'intérieur qui tentait d'assassiner un agent fédéral. Un argument qui se heurte aux nombreuses vidéos et qui attise la colère dans une ville déjà traumatisée.
Oui, ses parents parlent d'une âme généreuse qui voulait changer le monde. Alors que s'est-il passé exactement? Une vidéo dont l'authenticité a été confirmée par les autorités montre plusieurs agents avec des gilets siglés police mettre une personne au sol, la frapper. Un tir résonne, les policiers s'écartent puis tirent sur la victime à plusieurs reprises. D'après le ministère américain de la Sécurité intérieure, Alex Préti était armé d'un pistolet, il aurait violemment résisté avant qu'un agent ne tire. Or, une analyse d'image réalisée par le média d'investigation Bellingcat montre que la victime aurait été désarmée quelques instants avant que le premier coup ne soit tiré. Selon le chef de la police locale, Alex Préti, infirmier de 37 ans, possédait un permis de port d'armes et n'était pas connu de la police. Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, réclame que l'enquête soit confiée aux autorités locales, accusant l'ICE de semer le chaos et la violence, tout comme le maire de Minneapolis, le démocrate Jacob Frey, qui s'est adressé directement hier au chef de la Maison-Blanche.
Président Trump, il est temps de se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération et la sécurité sera rétablie. Nous vous demandons d'agir maintenant pour retirer ces agents fédéraux.
Les démocrates qui disent désormais refuser de voter le financement du département de la sécurité intérieure dont dépend l'ICE. Voilà qui pourrait conduire à la fin du mois à un nouveau shutdown, une paralysie budgétaire de l'État fédéral.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Des rassemblements d'hommage à Alex Préti et de protestations aussi ont donc eu lieu hier soir à Minneapolis mais aussi à New York ou Los Angeles. Les citoyens américains appelant l'ICE à foutre le camp. Cette police de l'immigration qui a vu ses moyens considérablement renforcé depuis un an et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est désormais perçu par beaucoup d'Américains comme une milice au service de la politique répressive du président américain contre les migrants. Pour André Caspi, professeur émérite d'histoire nord-américaine à la Sorbonne, eh bien les exactions des policiers de l'ICE s'expliquent notamment par leur manque de formation.
Elle manque certainement d'expérience, c'est-à-dire qu'au fond, elle a reçu des crédits supplémentaires avec la loi qui a été votée en juin-juillet 2025, mais on ne peut pas dire que ce soit une police particulièrement expérimentée, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'au fond, elle est brutale et son objectif, c'est d'arrêter des immigrants clandestins, de les mettre dans des avions et de les expédier au Salvador où ils seront jugés. C'est-à-dire qu'au fond, la lutte contre l'immigration clandestine que mène Donald Trump se fait avec les moyens renforcés qu'il a donnés à ICE et par conséquent, c'est ce qui crée sans aucun doute le trouble, les manifestations et finalement les incidents dramatiques qui se sont produits à Minneapolis.
Le professeur André Caspi au micro de nos confrères de France Info. Des manifestants aux États-Unis qui ont donc bravé le froid et les températures glaciales dues à une tempête hivernale d'une rare intensité qui continue de déferler sur le pays. 180 000 foyers sont privés d'électricité au Texas et en Louisiane. Une tempête provoquée par l'arrivée d'une masse d'air arctique en provenance du Canada et qui fait désormais route vers la côte est, touchant Washington et New York. L'état d'urgence a été déclenché dans les deux villes et dans 22 états à cette heure. Des températures frôlant les moins 40 degrés et jusqu'à 40 cm de neige sont attendues. Alors notre correspondant Gwendal Lavina est allé à la rencontre d'habitants new-yorkais qui font leur dernière course avant de se confiner.
Dans ce magasin déjà très fréquenté habituellement, les personnes rentrent au compte-gouttes. Une longue file s'étend sur le trottoir autour du bâtiment malgré les moins 10 degrés ressentis. Les autorités annoncent jusqu'à 20 cm de neige à New York. Naïd préfère donc ne pas prendre de risques.
Je vais acheter suffisamment pour qu'on soit tranquille pendant quelques jours. On vient d'arriver d'Austin au Texas, donc je n'ai pas l'habitude de toute cette neige. Mais on verra bien.
Juste derrière, Kaya, new-yorkaise de naissance, n'est pas spécialement inquiète.
Je vais acheter un petit peu plus que d'habitude, au cas où. Je ne vais plus sortir et travaillerai de chez moi demain, au chaud, en savourant de la nourriture qui réconforte.
Les gens ressortent avec deux ou trois sacs et les rayons sont presque vides. Ethan, lui, profite des dernières heures sans neige pour se promener et dédramatise.
Ça arrive à chaque fois qu'il y a une tempête, donc rien de nouveau. Les gens aiment bien surréagir. Mais on a de la chance, à New York, les agents déneigent rapidement, donc tout ça ne va pas durer.
2000 agents et 700 saleuses sont mobilisés, selon le maire de la ville, Zoran Mamdani.
Les liens entre les mouvements néo-nazis et les partis d'extrême droite au cœur d'un procès en Allemagne. 8 jeunes Allemands, membres présumés d'un groupe paramilitaire néo-nazi, soupçonnés d'avoir voulu conquérir par les armes une partie de l'Allemagne, sont jugés depuis vendredi à Dresde, en Saxe, bastion de l'ultra-droite allemande. Un procès fleuve qui doit durer jusqu'en décembre prochain et qui pourrait mettre au jour, Nathalie Versieux, les liens étroits entre ces séparatistes saxons et le parti d'extrême droite, l'AfD.
Convaincus de la fin prochaine de la démocratie, les 8 accusés se préparaient pour le jour X, le jour où de vastes territoires de l'Allemagne de l'Est feraient sécession en vue de fonder un État national-socialiste. Selon l'acte d'accusation, il prévoyait nettoyage ethnique et élimination des élites politiques. Les 8 hommes, aujourd'hui âgés de 22 à 26 ans, ont été arrêtés fin 2024. 3 d'entre eux sont issus de familles liées au néonazisme depuis 3 générations. En Allemagne, l'interpellation de groupes néonazis prêts à en découdre défraie régulièrement la chronique. Mais l'affaire des séparatistes saxons va plus loin en raison des liens entre ce groupe démantelé et le parti d'extrême droite AfD. 3 des accusés sont membres de ce parti, crédités de 25 à 40% des intentions de vote aux élections régionale partielle de cette année.
Midi 38 sur France Culture. 2000 personnes rassemblées ce matin sur le parvis de la gare de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Des habitants et des soutiens qui ont marché en silence jusqu'au lycée Honoré de Balzac, là où était scolarisée Camélia, 17 ans, qui a mis fin à ses jours le 13 janvier dernier. L'adolescente était victime de harcèlement moral depuis décembre, d'après sa famille. Bonjour Tim Rosturk.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
En direct de Mitry-Mory, et la famille de Camélia était en tête du cortège ce matin.
Oui, derrière des photos de Camélia, une banderole ensemble contre le harcèlement scolaire, ses proches avancent en silence. Chaïm, 17 ans, se rappelle de son amie courageuse face au harcèlement.
Gentille, toujours souriant, elle se prenait pas la tête. En fait, elle était forte. Depuis que je suis tout petit, je sais qu'il y a un groupe de filles qui les aiment pas trop. Voilà. Toutes ces filles, on a tous grandi avec elles, je leur en ai voulu. La justice va s'en charger, mais oui, je leur en veux. Là, la marche qu'on fait actuellement, c'est vraiment une bonne chose. Mais franchement, je pense que c'est pas ça qui fera arrêter le harcèlement scolaire.
Beaucoup sont venus même s'ils ne connaissaient pas Camélia, comme Khadija, elle-même harcelée pendant sa scolarité.
À l'époque, j'ai rien dit. J'ai arrêté ma scolarité. Il faut que la peur change de camp. Il faut que ses parents, en fait, dès qu'ils entendent que leur enfant emmerde une camarade, eh ben là, il faut sévir, en fait. Il faut sanctionner, c'est pas normal.
Le cortège atteint le lycée de Camélia. Son oncle prend alors la parole au micro.
La maman de Camélia a appelé à l'aide la direction du lycée. Elle a reçu en retour le silence. Tu voulais simplement donner une bonne éducation à ta fille unique. Tu as consacré toute ta vie à elle. Je suis d'accord avec son dernier message. Je t'aime et t'es la meilleure maman du monde.
Un frisson traverse la foule, des larmes coulent, puis tous applaudissent la maman de Camélia.
Timur Özturk en direct de Mitry Mori en Seine-et-Marne avec les moyens techniques de Marc Gervenès. Un ajustement de l'équipe gouvernementale, c'est ce qu'envisagerait le Premier ministre Sébastien Lecornu une fois que le budget sera définitivement adopté. Une information du journal La Tribune dimanche, alors que plusieurs ministres sont candidats aux élections municipales de mars prochain. Il faut dire que le chef du gouvernement a bien hâte de tourner la page de l'interminable feuilleton budgétaire après avoir brandi 2,49,3 cette semaine pour faire adopter les parties recettes puis dépenses du budget 2020. À l'Assemblée nationale. Après un passage au Sénat, le texte devrait être définitivement adopté début février, espère l'exécutif. Bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Alors, le gouvernement parle d'un budget de compromis, budget de stabilité, le MEDEF d'un budget de renoncement, budget étriqué. Bref, avec votre regard d'économiste, comment qualifieriez-vous ce budget ?
Bah, c'est effectivement un budget de compromis, il n'y a aucun doute derrière ça. L'Assemblée nationale est très fragmentée suite à la dissolution de 2004 et il a été très difficile d'arriver à trouver un consensus autour du budget. Finalement, Sébastien Lecornu y est arrivé, mais c'est effectivement au prix d'un certain nombre, disons, d'acrobaties qui fait que ce budget, il est de nature à ne satisfaire personne et chacun peut y trouver plein d'inconvénients. Il a quand même un énorme avantage, c'est qu'il existe. Et que ça, c'est une démonstration très importante de faire la preuve que même avec une assemblée fragmentée, on peut arriver à faire fonctionner les institutions françaises, que demain, les dépenses publiques seront financées, le budget de la défense sera financé, que les impôts seront prélevés. Et donc, même si ce n'est pas satisfaisant, la procédure budgétaire française a tout de même réussi à accoucher de quelque chose et donc permet la continuité de l'État.
Alors le gouvernement souhaite ramener le déficit public à 5% du PIB en 2026, ce qui passera par un effort d'environ 12 milliards d'euros répartis pour moitié entre des baisses de dépenses et des recettes supplémentaires. L'objectif de 5% est-il atteignable ?
Oui, il est atteignable. Effectivement, le budget qui, le compromis auquel on est arrivé, effectivement permet d'arriver à 5%. Il est un renoncement par rapport à l'objectif initial qui était envisagé d'être nettement en dessous de 5%, 4,6%. Ça constitue néanmoins un effort par rapport à la situation de départ, 5,4%. Donc une réduction du déficit, c'est déjà quelque chose que les marchés financiers ont jugé positivement. Maintenant, c'est vrai que les efforts importants restent à faire et que c'est quelque chose qui va devoir être résolu dans le débat politique de l'année 2026, mais surtout 2027, et qui fait que c'est aussi un budget d'attente, en fait, et que rien n'est vraiment résolu.
Un dernier mot sur la dette, Xavier Timbaud. Les charges d'intérêt de la dette augmentent. On y consacre désormais 117% du PIB, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Est-ce inquiétant si on se compare aux autres pays européens ?
Alors, c'est à la fois préoccupant, surtout quand on se compare aux autres pays européens qui ont montré que dans la sortie de la crise sanitaire et surtout de la crise énergétique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autres pays européens étaient arrivés à rétablir leurs comptes publics et que la France tardait à le faire. Le dernier budget en est la démonstration. Et donc, effectivement, ça se traduit par une relative hausse de la dette publique par rapport à nos partenaires. En même temps, elle est aujourd'hui plutôt stable, en dessous de 120% du PIB. Et donc, il n'y a pas d'explosion de la dette. La charge d'intérêt augmente, mais elle augmente parce que les taux d'intérêt ont augmenté, et c'est vrai partout dans les pays européens. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de préoccupant, mais qui ne nécessite aucune décision d'urgence et de panique face à cette évolution.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Xavier Timbaud. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur principal de l'OFCE. Et merci également à Annabelle Grelier pour la préparation de cet entretien. La météo de votre après-midi qui sera arrosée sur la moitié ouest. Des pluies plus faibles circulent des Hauts-de-France à la vallée du Rhône. Le ciel restera lumineux sur la Côte d'Azur. Les températures maximales affichent 5 à 8 degrés en moyenne, 2 petits degrés seulement à Strasbourg et jusqu'à 14 degrés au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia et Jean-Guilain Meige à la technique.